tout de suite sur Radio Galère 88.4, un format un peu spécial pour revenir sur la mort de Souheil. Souheil El Khalfaoui, tué par balle à bout portant par un policier stagiaire à Marseille le 4 août 2021, alors qu'il était dans son véhicule à l'arrêt. Ça s'était passé dans le quartier de la Belle de Mai, à deux pas de nos studios, et Souheil El Khalfaoui s'est fait tuer par un flic par balle alors qu'il n'avait rien fait. Depuis, sa famille se bat pour rétablir la justice et la vérité. L'enquête piétine, les preuves et les vidéos disparaissent, mais la famille se bat encore et toujours pour rétablir la vérité et la justice pour Souheil. Ce meurtre policier est un meurtre parmi tant d'autres, et c'est bien un système raciste qui permet tant de crimes policiers impunis, et c'est bien ce système raciste qui permet aux policiers assassins d'être innocentés systématiquement dans ce genre d'affaires en France depuis des décennies. Vous le savez, Radio Galère est antiraciste depuis sa naissance, depuis 40 ans. Et aujourd'hui, on soutient la famille de Souheil, celle de Zineb et celle de tous les autres dans leur lutte. Et on leur donne la parole. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on passe 30 minutes avec Issam, le père de Souheil, qui nous parle de cette affaire, mais aussi de toute la lutte autour, contre l'impunité policière, contre le permis de tuer. Bonjour Issam.
Bonjour.
Issam, ton fils Souheil El Khalfaoui a été tué en août 2021 par balle par un policier stagiaire. Et on va prendre le temps un petit peu de revenir. Est-ce que tu peux nous dire où on en est un peu de l'instruction aujourd'hui, parler un peu de l'actualité dans cette instruction?
Après la perte décédée qu'il y a eu l'été dernier, ce qui avait été compliqué pour nous parce qu'il a fallu manœuvrer presque de façon machiavélique pour que les pièces réapparaissent, avec une intervention du ministre de la Justice, Darmanin. Les pièces sont réapparues en 48 heures alors qu'elles avaient disparu depuis 3 ans, une fois qu'on a réussi à mettre la pression. À la suite de ça, j'avais été convoqué par le procureur et le juge pour m'expliquer comment ces pièces avaient disparu et pourquoi, en essayant de me convaincre que c'était pas volontaire. C'était assez comique comme intervention, puisque finalement, on apprend que les scellés ont été retrouvés derrière l'imprimante du juge et qu'ils étaient restés là pendant, soi-disant, pendant 3 ans. C'était assez rocambolesque. J'ai eu ensuite, après, un entretien avec la juge d'instruction, parce que du coup, il y a une nouvelle juge d'instruction qui est sur l'affaire depuis le départ du premier juge d'instruction. Et tout le monde m'a garanti que maintenant, tout allait être carré, fait dans les règles. La problématique, c'est que en fait, tout ce qui a été fait avant, ça a été toujours aussi mal fait et que ça ne va pas être fait.
Et, ouais.
Et donc, les vidéos qui ont disparu, elles ont toujours disparu. Les témoins qui n'ont pas été interrogés, ils ne seront toujours pas interrogés.
Oui, c'est ça.
Les témoins qui ont été interrogés par la police de la ville de naissance du tireur, ils ne vont pas être interrogés par la juge. Donc, en fait, on me dit que tout va bien, mais il n'y a rien qui est fait. Il y a des expertises là qui ont été lancées par la juge pour la fin du mois de juin. On espère qu'ils feront encore avancer un peu le dossier, mais en fait, à part de lancer de nouvelles expertises et même sur ces expertises, on est obligé de se battre pour qu'elles soient impartiales, ces expertises, il n'y a pas grand chose. C'est vraiment le combat au quotidien. Là, on s'apprête à déposer une nouvelle plainte pour des faux en écriture publique. Parce qu'en fait, la justice ne veut pas se saisir de ces faux, qui considèrent qu'elles ne concernent pas le meurtre, alors qu'elles sont le prétexte au meurtre. Donc il y a ces plaintes qui vont être déposées assez rapidement.
Parce que là, en fait, pour le dire un peu rapidement, en fait, ça fait 5 ans que Souheil a été tué.
Oui, quasiment, oui.
Ça fait 5 ans que ça patine, qu'il y a des reculs, des petits espoirs qui naissent, et puis en fait des désillusions, alors que, et on le verra, on en parlera un peu plus tard, parce que voilà, on va pas parler que de Souheil aujourd'hui avec toi, ça pourrait marcher en fait. Toi, c'est quoi aujourd'hui? Est-ce que t'as encore des espoirs en fait dans cette instruction? T'en es où toi en fait là-dedans?
Parler d'espoir, non, je vais pas parler d'espoir. Moi, je veux dire, je lâche rien en fait, je vais pas lâcher jusqu'au bout. Après, je suis conscient Et spécifiquement parce qu'on est à Marseille, parce qu'en fait, il y a des choses qui sont passées, qui ne seraient pas passées à d'autres endroits. Il y a des choses qui ont été scandaleuses à Marseille depuis l'IGPN, l'enquête de l'IGPN qui a été catastrophique. La perte de vidéos qui ont filmé le meurtre en direct, c'est quand même exceptionnel. De ne pas interroger les témoins, parce que c'est moi qui... faut savoir qu'en fait, les témoins, c'est moi qui les ai retrouvés. Même le témoin que le juge considérait comme crucial, c'est moi qui lui ai donné le numéro de téléphone pour le retrouver. Donc il y a quand même des choses qui sont hallucinantes, aberrantes. La police qui est pleine de moyens, etc., elle n'y arrive pas. Et moi qui ai zéro moyen et que j'ai juste à me traîner dans le quartier pour avoir des informations avec des gens que je ne connais pas, je voudrais quand même rappeler que je ne suis pas du quartier de la Belle de Mai. Donc en fait, j'y habite pas, je ne connaissais personne dans ce quartier quand j'ai fait tout ça. Donc il y a aussi ça, on pourrait croire, se dire c'est parce qu'il y a du quartier, qu'il a des liens, des contacts.
Même pas.
Non, même pas. Moi j'habitais au 5 Avenue, j'ai jamais habité à la Belle de Mai. Donc en fait, il y a tout un imaginaire qui se crée dans le juge, dans la police, sur que notre implication dans le territoire de la Belle de Mai, ben non, notre implication elle est post-meurtre de Souhait, et c'est parce que les habitants du quartier ont réagi, et c'est grâce à eux qu'on en est là aujourd'hui, et j'en ai pleinement conscience. Mais du coup, pas tellement, pas d'espoir, parce qu'en fait, avoir de l'espoir, c'est prendre le risque à chaque fois de tomber encore plus bas
qu'on était.
Ouais. Donc moi, je... Quand les vidéos ont été perdues deux fois, quand des actes élémentaires demandés au juge n'ont pas été réalisés, quand le truc quand même, la base, il y a un meurtre, il y a quelqu'un qui tire à bout portant sur une personne et cette personne n'est même pas placée en garde à vue. Il y a un procureur, en l'occurrence le procureur Rib, le même qui était dans l'affaire de Zineb, le même qui était dans l'affaire d'Angelina. Ce procureur décide que le tireur soit interrogé en dernier après tous les témoins et après les fonctionnaires de police. Donc,
3 ans après les faits, c'est ça.
Là,
c'est,
il a été entendu tout de suite par ses collègues de la police, tout de suite, 3 jours après tout le monde. C'est pas tout de suite, parce qu'il a eu, sachant qu'il a été entendu 3 jours après, en ayant passé la nuit à l'hôpital avec un des collègues avec qui il était ce soir-là, et ayant téléphoné au deuxième le lendemain. Donc en fait, ils ont pu s'accorder sur une histoire.
Largement eu le temps de se mettre d'accord.
D'accord.
Quoi.
Et à ce moment-là, il est interrogé 3 jours après par la police, JPN, mais le juge ne l'interroge que 3 ans après. Et encore, il ne met même pas en face de ses contradictions. C'est-à-dire que du coup, dans son témoignage, il ne dit pas la même chose que la première fois. Il se situe à des positions qui sont contredites par les bouts de film de caméra qu'on a. Et le juge ne lui demande pas pourquoi ça correspond pas. Donc ouais.
C'est de la complaisance. Enfin,
c'est plus que ça. En fait, il faut avoir conscience du conflit d'intérêts. C'est-à-dire que en fait, un juge au quotidien, il travaille avec des policiers. 90% de ces commissions rogatoires, du travail qu'il doit faire, il le fait faire à des policiers. Et c'est sur ces mêmes policiers qu'il doit enquêter. Donc en fait, s'il fait un peu de zèle. Mais encore, je dis zèle, s'il fait juste son travail, en fait, il prend le risque que toute la police ne l'aide plus dans ses enquêtes. Donc, ils ne vont pas très loin, ils ne poussent pas. Quand une pièce a disparu, à la limite, ça les arrange, puisque du coup, ça leur permet de ne pas l'étudier. Mmh. Donc, la vidéo qui a disparu, pour le juge, c'est une aubaine. Il n'a pas à se prononcer contre le policier.
Ouais.
Donc, ils ne vont pas aller chercher. Quand on leur demande d'enquêter sur des faux, ils n'en ont pas trop envie, ils ne le font pas. Donc, tout ça, on a l'habitude. Mais on lâche rien. Nous, en tant que famille, partie civile, on fait des enquêtes aussi grâce à, par exemple, il y a une Index, qui est un organisme indépendant, à qui on a donné toutes les pièces qu'on avait, les partiels, les témoignages, les bouts de vidéo, et ils démontrent complètement la version de la police. On sait que ça, c'est impossible. Ce que la police a dit, comment ça s'est passé, c'est impossible, c'est improuvable. On demande une reconstitution, pour l'instant, on ne l'a pas. Ça ne résisterait pas 5 secondes. Face à une reconstitution.
Ouais.
Donc oui, pas d'espoir, mais de la hargne, et on va pas lâcher.
De la déter, quoi. Ouais. Okay. Et qu'est-ce que ça peut être là dans les prochaines semaines, les prochains mois, les avancées ou les blocages qui pourraient survenir?
On attend le résultat d'une expertise d'accidentologie, parce qu'en fait on veut avoir ce qui s'est passé sur la trajectoire, puisque du coup il y a une incertitude sur la trajectoire du véhicule aux yeux de la juge, donc elle demande cette expertise. Et c'est aussi pour essayer de repositionner les tireurs par rapport à cette trajectoire. Il faut savoir que, par exemple, c'est assez fou, mais le premier juge avait refusé notre demande d'expertise balistique, alors que c'est un meurtre par balle. Donc il y en a une qui a été faite a posteriori par la deuxième juge, mais elle n'est pas suffisante et... elle est basée sur des éléments qui sont pas du tout matériellement possibles. Il se base sur la position de la douille alors qu'il y a trois bus qui sont passés dessus, on le voit à la caméra. Donc en fait, cette expertise n'était pas tenable. Et du coup, il y a une expertise complémentaire sur, avec les vidéos, etc., pour avoir une reconstitution faite par un organisme qui collabore en général avec la police pour voir ce qui s'est passé. On verra, suivant le sérieux de cette enquête, parce que si elle part du point de vue des policiers pour dire « voilà, ça s'est passé comme ça », ça ne marche pas. Mmh. Par contre, si elle prend les témoignages des personnes qui étaient là, des policiers, les bouts de vidéo, et qu'à partir de ça, elle fait une vraie analyse, je pense qu'on aura une grosse surprise.
Ok. En fait, face à, des éléments techniques d'instruction, à des trucs comme ça, qui, comme tu dis, où là, tu es dans une forme de lutte et de hargne et tout ça, et toi, tu es le père de Souhel, quoi. Et je veux dire, il y a un truc aussi hyper émotionnel qui doit aussi jouer là-dedans. Comment tu arrives, toi, à dealer, tu vois, je sais pas, un peu... j'imagine que tu t'accroches à ces trucs techniques pour pouvoir aussi avancer et te battre, mais d'un autre côté ça doit je sais pas, y a l'envie de lâcher l'affaire te passe pas par la tête?
Non, lâcher l'affaire ça m'a jamais passé par la tête, et en fait ce qu'on rencontre tout le temps, toutes les familles, tout le temps la même expérience, c'est à dire que du coup en fait on peut pas faire le deuil. Pour faire le deuil il faut du temps, donc il faut pouvoir s'écrouler en fait. Mais en fait, comme il n'y a pas de prise en charge normale de l'instruction par l'État, par les institutions, si on s'écroule, c'est foutu. Donc on ne s'écroule pas. On tient, on tient, on tient, on tient, et on lâche rien. Et en fait, au final, le combat, c'est ce qui nous permet d'être debout, mais en même temps, c'est ce qui nous fait mal, parce que ça nous empêche de faire le deuil. Mais on n'a pas le choix, en fait. Je pense que je sais que si j'abandonnais, ça aurait des conséquences psychologiques terribles pour moi, parce que ça serait dire j'ai abandonné mon fils qui est décédé, que personne ne peut défendre, je l'ai abandonné. Et donc ça, c'est pas possible. Il y a vraiment ce besoin de vérité. Et en fait, je pense que, et je sais exactement ce que c'est, parce que moi, je voudrais redire que soit il est mort le mercredi et j'ai pas su ce qui s'était passé réellement avant le vendredi, et cette lettre des habitants du quartier qui ont expliqué ce qu'ils avaient vu. Parce que pendant 2 jours, j'ai eu que la version policière. Celle où on me disait que Swale avait foncé délibérément sur un policier, l'avait renversé, écrasé, et que le policier était peut-être en danger de mort à l'hôpital. C'est ce qu'on m'a raconté, et que pendant 2 jours, c'est ce que j'ai cru. Jusqu'à ce que j'arrive à la Belle de Mai, parce que les habitants de la Belle de Mai avaient organisé une marche blanche. C'est pas moi qui l'ai organisé, la première marche blanche, c'est les habitants du quartier. Et là, je vois que c'était une marche arrière, que Swale, au moment où on lui tire dessus, il est à proximité d'aucun policier, qu'il n'y avait personne en danger. Donc je sais ce que c'était pendant 2 jours de vivre dans l'abîme, d'avoir le désespoir et de se poser la question, mais pourquoi il a fait ça, mon fils? En fait, il n'a pas fait ça. On m'a menti délibérément. Et je refuse aujourd'hui de m'écrouler, parce que en fait, ça serait entériner leur version. Cette version qui est fausse, même le juge, il sait qu'elle est fausse. Il sait que le policier qui continue de dire qu'il est passé sous la voiture de Swale, le juge me dit clairement, c'est pas possible en fait. Ils savent très bien, donc ils vont sur d'autres considérations, mais ils savent très bien déjà que les policiers ont menti. C'est ça qui est fou. Et je voudrais rappeler quand même ce qui est important à dire, c'est qu'en fait, en France, les policiers ont le droit de mentir en enquête préliminaire. On a 90% de classement sans suite qui est basé sur les paroles des policiers. Sachant que devant leurs collègues, à l'IGPN, etc., s'ils mentent, il n'y a aucune conséquence. Il n'y a même pas un blâme, il n'y a rien. Donc, sachant ça, moi, je ne peux pas abandonner et dire... En fait, je pourrais abandonner si je savais que derrière, il y avait une institution qui prenait la relève, une institution digne, forte, humaine. Mais on ne l'a pas, ça. Ouais. Aujourd'hui, on a des fascistes, racistes, souvent, parce qu'il ne faut pas... Faut pas oublier que 80 à 90% des personnes qui ont été tuées sur des refus d'obtempérer, c'est des jeunes hommes racisés. En fait, c'est pas anodin. Introduire dans la loi un dispositif qui dit qu'on peut tirer sur des véhicules qui sont susceptibles pendant leur fuite de perpétrer quoi que ce soit, en fait, ce susceptible entraîne forcément quelque chose de subjectif dans une société qui est aujourd'hui où on vote RN à près de 50% et où l'islamophobie a atteint des paroxysmes. Là, on l'a vu avec l'élection de maire noir ou arabe, c'est, on se fait traiter de singe, de je ne sais quoi. Donc, on peut pas me dire qu'un policier il va considérer de la même façon face à un véhicule, un conducteur qui est racisé, face à un conducteur blanc. C'est faux. Le racisme systémique est implanté en France et il est plus qu'implanté, il rayonne en France et on continue de le nier. Donc face à ça, moi je peux pas m'écrouler.
Et du coup, en vrai, quand on préparait cette interview, tu m'as dit il y a d'autres trucs dont il faut parler dans l'actualité là, et tu voulais qu'on parle de la mort de Nahel Merzouk, qui s'est fait lui aussi tuer par balle par un flic. C'était en juin 2023, c'était à Nanterre. Et là, début mars, il y a la cour d'appel de Versailles qui requalifie le meurtre en violence ayant entraîné la mort. Et tu avais envie de réagir à ça et...
Ouais. Alors, ça, c'était le... Bon, tout le monde connaît l'affaire Nahel.
On s'en souvient parce qu'il y avait eu les grosses émeutes et c'est vrai qu'on se souvient des...
La cagnotte, voilà. Tant de choses dégueulasses dans le traitement de ce dossier. C'était quand même le symbole. C'est-à-dire que du coup, avant que la vidéo sorte, en fait, il y avait un récit policier qui était tout autre. Nahel avait tenté de tuer un policier. La vidéo sort, retournement. En fait, c'était l'illustration parfaite de ce qui se passe à chaque fois. S'il n'y a pas de vidéo, il y a un mensonge qui est balancé. Ça fait le chemin police, procureur, presse. Et après, c'est parti dans le marbre. Ouais, voilà, et là, ça a été arrêté un peu avant parce qu'il y a cette vidéo qui est sortie. Donc, instruction qui est menée, policier qui va en détention préventive, ce qui est normal pour qu'il ne puisse pas se synchroniser avec ses camarades. Il a tué quelqu'un quand même, il a tué quelqu'un de sang-froid à 50 cm. Et en fait, le juge d'instruction fait son enquête, le policier est inculpé pour meurtre, et là, la cour d'appel décide qu'on va requalifier le meurtre.
En fait, ce n'est pas un meurtre. En fait, c'est des violences ayant entraîné la mort.
Donc, la cour d'appel dit que si tu as un pistolet, que tu tires à moins de 50 cm d'une personne en direction de son thorax, quand tu es un policier, c'est pas un meurtre.
C'est terrifiant. Hein.
Ouais, c'est une décision qui est inexplicable pour tellement de personnes. Même le parquet a fait appel de cette décision, parce que même lui, il comprend pas. En fait. On peut pas dire que quand on tire à 50 cm sur une personne en plein thorax, à hauteur de son cœur, c'est pas pour le tuer. Ça n'a pas de sens. Il n'a pas tiré dans les jambes et il a eu, par malheur, touché son artère dans la jambe. Voilà. Non, il a tiré vers son cœur, il a tiré au thorax. Et la cour d'appel dit, un policier, parce qu'il est policier, s'il tire sur quelqu'un, en fait, c'est un peu partie de sa fonction. Donc, ce n'est pas un meurtre. En fait, c'est inaudible pour personne. C'est incompréhensible. Et en fait, pour moi, ce qui s'est passé, c'est plutôt un ensemble de juges bourgeois de Versailles qui n'ont pas supporté, qui étaient sûrement aussi racistes que les autres, qui n'ont pas supporté qu'un policier puisse aller en cour d'assises pour avoir tué un jeune racisé et essaye encore de le sauver, alors que ce n'est pas à eux de sauver ça. Il y aurait un procès, il y aurait un jury. C'est au jury de déterminer ce qui s'est passé et pas ces juges... qui vivent sur une autre planète et qui décident avec une décision qui serait incompréhensible pour personne. Parce que dire que tirer à bout portant sur quelqu'un, c'est pas vouloir le tuer, c'est tellement incompréhensible que ça n'est même vraiment ridicule. En fait, on est arrivé à un stade où plus c'est gros, plus ça passe.
On se croira en politique presque, non? Alors qu'on est face à une institution judiciaire.
Quoi, mais du coup, en fait, c'est purement politique. Honnêtement, je pense que tous les juristes ont été abasourdis de cette décision. Même le parquet décide de faire appel.
Ça montre bien qu'on est dans l'absurde.
Ouais, je voudrais dire à ces juges, donc à chaque fois que maintenant que quelqu'un va tirer avec un pistolet sur quelqu'un, vous allez considérer que c'est pas un meurtre. Donc il n'y a plus de meurtre en France par balle. Ça n'existe plus. Donc ouais, c'est un truc qui est fou.
En tout cas, là-dedans, on peut aussi en profiter pour donner de la force à toutes les familles, et en particulier à la famille de Naël, qui est dans cette affaire. Et voilà, qui se fait... Enfin, clairement, là, tu te fais mettre la tête sous l'eau.
Elle le dit clairement, elle a dû tuer une deuxième fois avec cette décision, ouais. En fait. Et voilà, et donc il y a la, ça va en cassation. On espère que la cassation aura... Le courage de dire qu'en fait, parce que c'est même pas. La cassation ne juge pas sur le fond.
Oui, oui.
Mais en fait, dire que la cour d'appel travestit quelque chose qui est de l'ordre du meurtre en autre chose parce que c'est des policiers, c'est pas du fond en fait. C'est vraiment faire un cas particulier des policiers. Ouais, et donc, ouais.
On espère que ça va être cassé. Ouais. Mais du coup, quand même, on peut. Aussi voir les autres exemples, et notamment celui de Olivio Gomez, son meurtre à Poissy en 2020, qui a été lui aussi abattu par balle par un policier. Et ce policier a été condamné il y a quelques jours à 10 ans de prison ferme pour meurtre. Ouais. Pas pour violence ayant entraîné la mort cette fois-ci, pour meurtre. Et c'est un peu du jamais vu en France, j'ai l'impression.
Ah oui, pour ce genre de chose, c'est du jamais vu. Ouais.
Pour
c'est...
un policier qui tue un noir par balle. Comme ça, qu'il se fasse condamner à 10 ans de prison, qu'est-ce qu'on en pense ? Est-ce que ça donne un peu d'espoir ? Ou est-ce qu'on se dit que c'est l'exception qui confirme la règle, simplement ?
Bah, en fait, nous, en tant que famille, on connaît toutes les familles, on connaissait bien l'histoire d'Olivio, et on avait quand même tous beaucoup d'espoir sur ce verdict. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une des seules affaires où les choses se sont passées normalement. C'est-à-dire que du coup, il y a un inspecteur de l'IGPN qui était là depuis 5 jours et du coup qui a fait son travail. Quand les policiers ont dit qu'ils avaient poursuivi Olivio depuis Paris jusqu'à Poissy parce qu'il faisait des embardés, parce qu'il était en excès de vitesse, il a réquisitionné toutes les vidéos et il a vu que c'était des mensonges. Quand ils ont dit qu'ils pensaient que c'était une voiture qui transportait de la drogue, il a essayé de comprendre pourquoi, donc il a fait l'enquête. Quand ils ont dit qu'ils pensaient que c'était une voiture volée, alors que c'était une voiture au nom de sa femme, donc il rentrait chez lui, et que les policiers ont vérifié l'adresse du véhicule et bien vérifié que Olivio, à ce moment-là, allait vers cette adresse-là, donc ça voulait bien dire qu'il allait rendre la voiture à l'endroit où elle appartenait. Donc il a fait toutes ses recherches, ce policier, et donc il a fait son travail de policier, en fait. Et donc il a pu démonter tous les propos des policiers. À cela, un procureur qui n'a pas l'intention, comme nous à Marseille, ou à l'époque où le procureur Rib faisait tout son possible pour disculper les policiers. Je veux quand même rappeler que à Marseille, par exemple, Rib était celui qui était à côté de celui qui a tué Zineb. Il a enquêté pendant 6 mois sur un meurtre auquel il était à côté du meurtrier. Pour Angelina, il a refusé de faire plein d'actes, notamment il y a des bouts de vidéos qui ont disparu, il y a plein de choses, il n'a pas voulu le faire. Pour Swail, les vidéos ont disparu, et je pense qu'il est très moteur dans cette disparition des vidéos. Donc quand on tombe sur un procureur en région parisienne, en l'occurrence, qui décide de faire son travail, parce qu'en fait c'est son travail de chercher pour la vérité, quand on a un enquêteur de l'IGPN qui fait son travail,
bah, en fait, ça marche.
Et bah, ça marche. Bah, c'est tout. On réalise bien que comment dire, tous ces cas qui ont été classés sans suite, à chaque fois, quand on va le regarder, les éléments de preuve ont soit disparu, il y a eu un classement sans suite sur les dires uniquement des policiers, parce qu'il n'y a pas eu d'enquête, de vraie enquête d'un inspecteur de l'IGPN qui a essayé de faire ce qu'il fallait. Là, c'est la condition normale, ce qui devrait se passer à chaque fois des personnes qui font leur travail. Quand les personnes font leur travail, ça marche. Vous savez, tu sais, au moment, pendant le procès, il y a l'avocat, Liénard, c'est l'avocat.
Le procès
du meurtrier d'Olivio.
Ouais, okay.
Il y a l'avocat, Liénard, qui a reproché à l'inspecteur de l'IGPN, il lui a dit, pourquoi vous avez fait du zèle ? Je sais pas. Est-ce que faire son travail, c'est faire du zèle ? Lui a-t-il répondu. En fait, aux yeux de l'avocat de la défense, faire qu'un policier fasse son travail normal, c'est faire du zèle.
C'était faire, ouais, d'être à charge, quoi. Ou... Ouais.
Et non. Et en fait, c'est ça le paradoxe. Là,
ils sont tellement pas habitués, en fait.
Ils sont tellement habitués à ce que les enquêtes ne fasse rien, ne fasse rien. Qu'il y a rien, que quand quelqu'un fait son travail, ça devient choquant pour, l'avocat de la défense. Et donc, on a eu cette condamnation à 10 ans ferme avec mandat de dépôt, donc il est parti avec les menottes. Après, il avait un profil assez particulier, c'était quelqu'un qui était qui s'exerçait au tir toutes les semaines, vraiment. Mmh. Il faut, quand on regarde ce qui s'est passé, c'est quelqu'un qui, au moment où il a commencé à poursuivre Olivio, il y avait une boucle WhatsApp sur les refus de l'obtempérer. Donc c'était un truc, il se vantait avec ses collègues de la voiture, de prendre en chasse quelqu'un alors que quelqu'un qui faisait rien, qui rentrait juste chez lui, qui ne faisait pas d'excès de vitesse. Donc il y avait toute une personnalité du policier-tireur, plus des gens qui font leur travail, et la condamnation elle est arrivée. Après, ils font appel, bien sûr, le tireur a fait appel. Donc, il y a une responsabilité énorme de la cour d'appel. Parce que du coup, il faut... En fait, il y a tellement eu, un consensus de tout le monde, en fait, pour dire que c'était inacceptable ce qui s'était passé. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, la cour d'appel inverse la décision, parce que ça serait vraiment... ça serait vraiment encore se foutre de la gueule de tout le monde. Ouais. Ça serait encore dire.
On a montré et en fait.
On fait ce qu'on veut. Ouais. C'est comme aujourd'hui que on est partie civile dans nos enquêtes, les familles. On peut demander au juge de faire des enquêtes. Moi, j'ai demandé au juge plein de choses. J'ai demandé de consulter le disque dur où il y avait les vidéos qui auraient potentiellement pu être enregistrées. Il n'a pas voulu. J'ai demandé que mes avocats soient présents aux interrogatoires des témoins. Il a refusé. J'ai demandé à ce qu'il y ait un contradictoire entre les policiers, qu'on leur pose des questions, parce qu'il a refusé. Et en fait, quand il refuse, on peut aller en cour d'appel. On fait appel. Sauf qu'en dans l'instruction, il y a un truc qui s'appelle le filtrage. Si le président de la cour d'appel répond et dit non, en fait, on n'a même pas l'occasion d'aller s'exprimer. Moi, j'ai fait de multiples appels. J'ai jamais pu aller m'exprimer devant la cour d'appel. À chaque fois, ça a été filtré. Il a dit « Non, je trouve que les arguments du juge sont très bons. »
Basta.
C'est tout. Donc en fait, le droit français nous fait croire qu'on a des droits, mais dans la pratique, on n'en a pas. Mmh. Et donc là, si la cour d'appel cassait le premier verdict, ça serait une catastrophe. Ouais. Ça serait vraiment montrer qu'en fait, on fait ce qu'on veut. Et je crois vraiment... que si ça se passait, il y aurait des conséquences graves et qu'on... Parce que toutes ces familles qui connaissent comment ça fonctionne, une cour d'appel qui répudierait tout ce qui a été fait en amont par cet enquêteur, par ce procureur, par ce juge d'instruction, ça serait vraiment, 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 je pense, une déclaration de guerre.
En tout cas, on croise les doigts pour que ce verdict y tienne. Et voilà. Et par ailleurs, donc là, on est en train de se dire que, en fait, le procès et un verdict, il est beaucoup préparé par les enquêteurs. Et finalement, et c'est pas peut-être même pas tant le tribunal, c'est en fait tout le travail en amont. Mais avant ce travail en amont, il faut encore que la loi prévoie des cas pour condamner les gens. S'il n'y a pas de cas dans la loi pour condamner les gens, en fait, il y aura beau avoir une enquête, il y aura beau avoir un tribunal qui voudra condamner la personne, si la loi elle dit que l'acte n'est pas condamnable, il n'y a pas de condamnation. Et là, en ce moment, il y a des projets de loi qui sont en train d'être mijotés, on va dire. Un projet de loi sur la présomption d'usage légitime de l'arme. C'est Nunez, là, le ministre de l'Intérieur, qui a annoncé vouloir reprendre un projet de loi qui n'est pas passé donc récemment et qui a été abandonné à l'Assemblée nationale, je crois, récemment, et qui instaurerait une présomption d'usage légitime de l'arme pour les policiers. Tu voulais qu'on en parle parce que ça fait peur.
Ouais.
C'est
inversé la charge de la preuve. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quand un policier tire sur quelqu'un, le procureur doit démontrer qu'il y a légitime défense.
Il le fait souvent très facilement et avec beaucoup de voilà, mais
il le fait.
Mais
avec,
il faut qu'il le fasse.
Mais il faut qu'il le fasse, d'accord. C'est lui qui a accès. Il doit le prouver. Et s'il n'y arrive pas, s'il y a un doute, il y a procès. Mmh. Le fait qui est ça,
normalement, ce projet de loi, quoi.
Non, avant même le projet de loi. Le fait que le procureur doive démontrer qu'il y a légitime défense, il est censé enquêter immédiatement. Parce que du coup, il a quelque chose à faire. Et en fait, théoriquement, dans ces cas-là, les policiers devraient aller en garde à vue. Ils n'y vont pas toujours. Ils ont quand même un traitement d'exception. Mais la garde à vue, ce n'est pas un dispositif. Ce n'est pas une punition, la garde à vue. C'est un dispositif qui permet de sécuriser la vérité. D'éviter à ce qu'on communique avec ses collègues, avec des complices, pour recueillir la parole de l'accusé immédiatement, pour que ce soit au plus près de l'acte. Inverser la charge de la preuve, c'est aussi dire à chaque fois qu'un policier tire, par défaut, il était dans son bon droit de tirer. Donc par défaut,
y a rien
on ne le met pas en garde à vue. Donc par défaut, on le laisse communiquer avec ses collègues, on le laisse potentiellement détruire des preuves, on le laisse faire tout ce qu'il veut. Et en fait, c'est dire aux familles, à tout le monde, c'est-à-dire qu'un policier qui vous tire dessus, quelles que soient les circonstances de son tir, par défaut, on dira qu'il avait raison de vous tirer dessus. Il y aura une enquête, on nous dit, il y aura une enquête. Mais l'enquête, déjà que quand c'est dans l'autre sens, il ne se passe rien, alors là, ça sera aux familles, aux victimes, de demander des réquisitions. Toute l'enquête préliminaire qui est faite aujourd'hui par le parquet, en fait, c'est la famille qui doit l'amener de son côté, parce qu'on sait que ça ne sera pas fait. Et donc, effectivement, si au bout d'un moment, on arrive à démontrer que, alors que déjà là, on n'y arrive pas parce que tout est verrouillé, alors que là, on n'aura accès à rien du tout. Et quand on entend... quand on entend ces députés qui expliquent pourquoi ils font ça, ils nous parlent des pauvres policiers qui vont en garde à vue. En fait, il y a peut-être 20 policiers qui vont en garde à vue par an, qui dans la plupart du temps passent 2 heures en garde à vue, sont en sorte.
Non, mais c'est clairement des prétextes.
Donc, du coup, ce que je veux dire, c'est que c'est complètement politique. C'est en fait, aujourd'hui, ces députés sont dans une surenchère de la sécurité, ils ont besoin de la police pour ça, donc c'est encore caresser la police dans le sens du poil, en disant « Allez-y, de toute façon, les victimes, c'est qui ? C'est des pauvres Arabes, c'est des pauvres musulmans, c'est des pauvres Noirs, on s'en fout, on s'en bat les cacahuètes. » En fait, c'est ce qu'ils nous disent, ces députés. Ils nous redisent encore une fois avec force, votre vie, vous, là, les racisés, on n'en a rien à foutre. C'est ce qu'ils nous disent. C'est pas les juges qui sont pour cette disposition, c'est pas les avocats. Les avocats et les juges, ils sont contre. En fait, c'est une prolongation de la 435 qui a déjà élargi les droits des policiers en matière de tir. Cette 435 qui est déjà décriée par tout le monde, par des juges, par des avocats, même par des syndicats de police. Donc là, on leur dit, c'est encore plus loin. Vous pouvez tirer et là, de toute façon,
retournement.
C'est open bar.
Bon, cette loi, elle est pas passée, elle a même pas encore été présentée,
elle est prévue pour le mois de mai quand même.
Ouais, prévue pour le mois de mai, donc on va regarder. C'est pas sûr qu'elle passe, peut-être elle va passer. On va surveiller tout ça et de toute façon, on va en reparler, que ce soit sur les ondes de Radio Galère ou tous les médias autonomes qui portent leur voix contre les violences d'État et les violences policières. Et puis, avant de nous quitter, deux choses. Première, tu as enregistré une série de podcasts qui va être produit par Radio Galère. Donc avant la fin de l'année, on aura le plaisir de t'entendre à nouveau dans un format un peu plus long encore pour parler des violences d'État et des violences policières et aussi du meurtre de Souheil. Et puis en ce moment, il y a là tout le mois d'avril, il va y avoir une exposition qui va tourner, qui s'appelle 435-1 m'a tué.
Ouais.
Tu peux nous en parler ?
Ouais. Alors 435 m'a tué, c'est un projet qu'on a monté avec l'association Stop aux violences d'État pour justement combattre cette loi qu'on appelle permis de tuer. Et on s'est beaucoup posé la question sur comment sensibiliser les gens sur cette loi.
C'est hyper dur en vrai, hein. c'est pas facile de savoir comment faire.
C'est super technique et c'est surtout qu'aujourd'hui les gens se sentent pas concernés.
Ouais.
Parce qu'en fait ils ont l'impression que ça peut pas leur arriver. Bah en fait, moi aussi, je pensais qu'à un moment, ça pourrait pas m'arriver. Aujourd'hui, on tue ce refus d'obtempérer parce qu'on est noir, arabe. Demain, ça sera parce qu'on est écolo. Après-demain, ça sera parce qu'on est gay. En fait, il suffit de pas correspondre à l'idéal de l'État pour devenir une cible. Donc ça, on communique beaucoup dessus. Et donc, en fait, on s'est dit que la meilleure façon d'atteindre les gens, c'était l'art. Et donc, on a choisi différents médias, notamment des peintures classiques. On a 7 peintures assez grandes, très grandes, de 1m80 sur 1m30, qui vont être exposées, qui exposent la loi depuis ses débuts jusqu'à une utopique abrogation qu'on imagine. Et cette exposition permet de comprendre la loi, de comprendre ses travers, de comprendre comment elle est fourvoyée par la police et comment les familles en souffrent. Il y a aussi, avec cette exposition, il y a des reportages vidéo sur des familles victimes qui expliquent ce qu'elles ont vécu et comment elles l'ont vécu. Il y a des séries de vidéos en design motion qui expliquent la loi de façon didactique pour qu'on comprenne, justement, parce qu'en fait, c'est quelque chose de complexe. Les gens ont du mal à appréhender cette loi qui, quand on parle de légitime défense, c'était compliqué mais assez compréhensible. Mais quand on parle de choses qui sont susceptibles d'arriver, ça devient un peu comme le film Minority Report. En fait, le policier, en une seconde, il est censé deviner ce que va faire l'autre et le tuer. Ça n'existe pas, à part dans les films, bien évidemment. Et voilà. Donc, il y a aussi, du coup, on sera là, nous, pour discuter avec les gens, pour parler, parce qu'en fait, je pense que on est là pour s'exprimer. Souvent, moi, la première chose qu'on me dit, c'est pourquoi Souhel, il s'est pas arrêté. Déjà, je vais leur dire, Souhel était arrêté, il a juste redémarré. Je peux leur dire aussi, quand on est contrôlé une fois, deux fois, trois fois dans sa vie, c'est pas la même chose que quand on est contrôlé 200, 300 fois dans sa vie. Moi, personnellement, j'ai été au moins contrôlé plus de 150 fois. Donc, en fait, mon rapport à la police n'est pas le même. Et je tiens à expliquer ça, parce que du coup, ça explique aussi les comportements des jeunes quand ils ont ras-le-bol de se faire contrôler, donc ils ne s'arrêtent pas et ils se font tuer pour ça.
Ouais. Ils se mettent à courir et
voilà.
Tu fais tuer.
Voilà. Donc, on est là aussi pour expliquer, pour parler de tout ça et pour débattre, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont des opinions contraires. On est là pour s'exprimer, pour s'expliquer, pour convaincre. Et voilà, on a choisi l'art pour interpeller et on sera là pour expliquer. Et après, et pour que ça soit aussi quelque chose de... On veut pas que ça soit un truc trop lourd. Du coup, il y a aussi... que ce soit, ça, c'est un spectacle... C'est un... Comment dire ? C'est une exposition qui va être tournée à Paris, Saint-Denis, Marseille, Lille et Rennes.
Donc c'est une exposition de rue, hein, une installation temporaire.
Qui dure 24 heures, sauf à Saint-Denis où on prolonge un petit peu. Et du coup, on est là et on veut que ce soit un peu festif. Donc il y aura aussi des gens qui seront là pour danser. À Paris, il y aura un spectacle de Crump. À Marseille, il y aura des gens qui vont chanter. Il y aura du rap, etc. Parce que du coup, on veut aussi que les gens passent un moment...
Ça touche les gens et puis passent un
moment
vivant.
Voilà. On ne veut pas que ça soit juste quelque chose qui sape le moral. Ouais. C'est un sujet douloureux. Dur, mais on est là pour essayer de faire changer les choses et pour donner de la force à tout le monde.
Eh ben, c'est magnifique. Rendez-vous donc le 26 avril à partir de 14h
sous
l'ombrière du Vieux-Port à Marseille. Merci beaucoup, Issam.
Merci à toi.
On se tient au courant. La force à toutes et à tous. Et à bientôt sur le 88.4.
Merci.